I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey,
bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile, la bulle.
C'est la bulle immobilière.
Avec Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre 9e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Laissez-moi vous présenter notre co-animatrice pour la saison 9, Sylvie Bougie, avocate qui exerce le droit des affaires et commercial à son cabinet, Vigie, service juridique. Salut Sylvie.
Salut, comment ça va?
Ça va bien. Écoute, j'adore la 9e saison. Pas que les 8 dernières ont été vraiment plates, mais pour vrai, on a une nouvelle dynamique. On met du temps, chacun de notre bord aussi, dans le développement de tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Sylvie, quand on parle d'immobilier, on parle souvent de matériaux de construction. Pour toi, tu sais, ça t'allume quoi comme réflexion?
Bien, en fait, plusieurs choses. On entend beaucoup parler, de l'augmentation des coûts des matériaux de construction, mais aussi les délais pour passer les commandes, le manque de matériaux. On le voit pas juste dans le domaine des matériaux de construction, là, ces temps-ci, mais on dirait que pénurie de main-d'œuvre, COVID, le dos large un peu. Fait qu'aujourd'hui, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir en parler avec Sylvain Théberge. Donc, bonjour, Sylvain, comment vas-tu?
Ça va bien, les gars.
Ça va. Good. Puis Sylvain, dans le fond, il est représentant externe, puis il est représentant aussi au développement des affaires chez Beaumat. On parle des matériaux de construction. Tu es un spécialiste. Tu es un gars qui a des relations d'affaires extraordinaires au niveau des matériaux de construction. Puis écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton histoire, t'arrives de où, c'est quoi?
Bien, tout d'abord, merci de m'inviter, donner une belle vitrine à Matériaux Beaumat. On dit Beaumat, mais on va dire Matériaux Beaumat. Une compagnie qui a quand même du vécu sur la Rive-Sud. C'est une famille impliquée, la famille Garon, de père en fils. Donc, merci de nous donner cette vitrine-là. C'est bien simple. J'étais un gars natif de Cap-Saint-Ignace. C'est un petit village à l'est de Montmagny. J'étais à Lévis depuis 2005. Et j'étais un technicien forestier à la base. J'ai étudié une technique forestière. Ça n'avait aucun lien avec... J'ai rentré dans une quincaillerie. Mon premier emploi, c'est un concours de circonstances. Je devais rentrer chez chantier pour aller mesurer les coupes. Le gars va pas d'ouvrage pour l'instant. J'ai rentré dans quincaillerie, puis je pense qu'ils ont vu le potentiel. Là.
On va se le dire, quelques années plus tard.
Et je pense qu'ils ont vu juste. Travailler de manière acharnée, 6 jours par semaine, à faire mes classes. Sortir du magasin, on va t'envoyer sur la route. Écoute, t'as de la jasette, tu y vas. Aller sur la route pour, à l'époque, qui s'appelait Groupe Dinaco, qui est basé à la Pocatière. Puis j'ai eu une offre dans le coin, me suis rapproché. J'ai juste acheté une maison à Lévis et j'ai rentré pour Matériaux Beaumat. J'avais été chez Mercier et Frères à l'époque, un an, faire une transition et par la suite, Beaumat m'a fait un offre. Il y a eu de l'évolution. J'ai pris du galon, j'ai fait mes classes. C'est pas facile. On arrive dans un marché où personne ne me connaît. Il y a des gros entrepreneurs. On part d'une région de Montmagny où les entrepreneurs sont. Il y a des bons entrepreneurs, mais c'est pas. On se le dit.
Il n'y a pas du grand volume non plus.
C'est pas Québec. C'est pas Lévis. Fais ma classe, travaille fort. Femme à coup de coude, puis faire ma place. Et il y a eu une première vague chez Beaumat, mais écoutez, c'est de là que je pars.
Je viens d'une famille. Ton rôle de chez Matériaux Beaumont, c'est quoi?
Dans le fond, je suis représentant externe. Dans le fond, on fait puis au développement des affaires. Ce que je fais, c'est la première chose, c'est d'emmener des gens chez nous. C'est d'aller ouvrir, développer des nouveaux comptes, développer des nouveaux marchés dans la région de Québec pour le professionnel de la construction. On va se dire, Beaumont, la clientèle que l'on vise principalement, c'est le professionnel de la construction. On n'a pas d'ensemble patio, on n'a pas de barbecue, on ne vend pas de terre noire.
Vous visez vraiment l'entrepreneur en général?
Bien, je vais dire le professionnel, parce qu'il y en a qui sont en rénovation, il y en a qui sont spécialisés, mais ce qu'on veut, c'est le professionnel de la construction. J'ai des clients qui sont des firmes d'estimation, qui m'appellent pour avoir des prix, mais ces gens-là me mettent en relation avec des clientèles, la clientèle qu'ils ont. Mais Beaumont, je tiens à le préciser, puis je vais revenir souvent là-dessus, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on l'on vise, les gens viennent chez nous. On a un magasin, on est dans un parc industriel, c'est friendly. Par contre, la clientèle que le département dans lequel je travaille, l'on vise, c'est
le professionnel de la construction. Oui. Puis, tu sais, pour localiser aussi Matériaux Beaumont, c'est à Saint-Étienne, à sortie 305, ouais. Du côté sud de la Vin. Là. Fait que, tu sais, c'est sur le coin,
l'accessibilité. Oui, c'est du bois. On voit du bois. Les installations sont énormes. C'est quand même 200 000 pieds carrés de terrain. D'entreposage, que je veux dire, excusez-moi, d'entreposage quand plus même. De terrain. C'est énorme.
Puis Beaumont, c'est une entreprise qui est ici, dans la grande région, depuis plusieurs années.
1978.
Puis depuis 1978, ont évolué aussi. Je pense que c'était la famille Garon à l'époque.
Bien, pour ceux qui connaissent la région, quand on descend le chemin, on descend Henri IV, à droite, il y avait les Matériaux Garon. Bien, c'est toute
Ça, c'est où est-ce qu'il y a le dépôt à neige? Où est-ce qu'il y a le dépôt à neige maintenant, un peu
non,
plus bas?
Non, en haut de ça. Okay, okay. La Vigie, là, c'est un projet que Imma Broussin ont fait.
Ouais.
C'était une quincaillerie qui était Matériaux Garon à l'époque. C'est de là que la famille Garon a parti. Ils sont établis sur la rive sud.
C'est pas qu'une petite entreprise non plus. Vous avez des chiffres d'affaires incroyables.
C'est 2 millions de pieds carrés. C'est plusieurs divisions. Il y a la Garon Distribution qui est une division qui font de la distribution de matériaux pour des bannières et des magasins. C'est quelque chose que nous, c'est la même famille, mais c'est une autre structure de prix. C'est complètement autre chose, mais veut pas. C'est une entreprise, faut en tenir compte. Ça vient donner un énorme volume à ce qu'on a. Les deux compagnies ensemble, c'est énorme.
Puis là, en plus de ça, c'est qu'on est une entreprise spécialisée dans les matériaux de la construction, spécialisée pour le professionnel de la construction, ouais. Ce qui veut dire que les gens qui sont là, c'est des gens qui se connaissent. Fait qu'on n'a pas des gens qui vont sortir, puis là, tu sais, on a une pénurie de main-d'œuvre, tout le monde, mais majoritairement, c'est des gens qui vont être formés, qui vont connaître qu'est-ce qu'ils parlent, puis ça sera peut-être pas un jeune de 15 ans qui travaille chez Canac, puis qui va nous outiller dans l'électricité, là.
Ne visant pas cette clientèle, bien, pas nécessairement cette clientèle-là, tu sais, on veut, comme on dit, on veut pas qu'ils viennent chez nous pour acheter des décorations d'Halloween. Mm-hmm. Ça nous oblige à avoir un staff
qualifié.
Qui est compétent, qualifié, intéressé. J'ai en tête mon collègue Michel, qui est là depuis une quarantaine, qui va faire 40 ans en mars prochain, qui est là. C'est des gens qui ont beaucoup de vécu, qui ont été là. Fait que les employés sont fidèles, les employés restent. Et puis, on ne veut pas du côté entrepreneur, mais c'est des emplois intéressants. Exemple, aux prises de commande, c'est du lundi au vendredi. Mm-hmm. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Il s'est ouvert le samedi, mais du côté magasin. Mais au niveau d'entrepreneur, on se concentre
sur
où que les entrepreneurs travaillent.
Puis aussi, avant qu'on rentre en onde, là, tu nous mentionnais que c'était beaucoup aussi la mise en relation. Je pense que c'est une de vos forces. Ça,
hein, moi, écoutez, Jeff, on se connaît depuis, on ne sort pas de cachette, on se connaît quand même depuis plusieurs années. J'ai été chez Beaumont une première fois, j'ai quitté à l'époque, on a fondé Constro Conseil, et je me suis associé avec Mélanie Tremblay, qui était Urbam Conseil, une firme en urbanisme. Tout a été vendu à une firme d'architectes de la région de Québec. Mais j'ai toujours été impliqué, le réseau immobilier, j'ai été impliqué à la Chambre de commerce, aussi à Lévis, très impliqué. Là, j'y vois moins un petit peu, comme tout le monde, on passe la balle, mais le réseau immobilier dans lequel tu étais là cette semaine au déjeuner, on l'a porté à bout de bras pendant près de 10 ans.
Ah oui, définitivement. Puis tu sais, les événements sont tout le temps écœurants, les invités sont toujours écœurants.
On a eu des gros noms, on a eu le maire Labeaume, on a eu le maire Laulier, on a eu M. Duhaime cette année au colloque. C'est 750 plus ou moins. On ne s'assinera pas pour un deux, mais c'est plus ou moins 750 participants différents annuellement. Fait que, tout ça en s'implantant, ben, j'ai fait ma force en disant, ben, comment je peux me démarquer de ma compétition, mm-hmm. c'est plus de passer sur un chantier puis laisser une carte d'affaires. Ça dépense du gaz, ça dépense d'énergie pour rien. Mais j'ai toujours forcé de mettre en relation tout mon monde, de dire, tu as besoin d'un évaluateur agréé, tu as besoin d'un électricien, t'as dit, je vais faire des téléphones pour toi. Et les gens les gens ont de la mémoire. Forcé de constater qu'après les années, j'ai réussi mon pari.
Ah oui, pis,
parce que personne ne faisait ça.
Tu viens de prendre ta retraite récemment. Pis, tu sais,
du réseau immobilier.
Du réseau immobilier, effectivement. Mais tu sais, dans les événements, tu es encore présent. Les gens te reconnaissent puis apprécient tout l'effort, toute l'énergie que tu as fait par rapport à ça. Puis c'est une belle fierté que tu dois porter sur tes épaules parce que c'est un franc succès puis un grand bravo par rapport à ça. Puis, tu sais, les gens qui sont impliqués de près ou de loin de l'immobilier, c'est important de réseauter, c'est important d'aller voir des gens, d'aller consulter différents groupes, d'avoir des opinions différentes aussi. Puis, s'il vous plaît, soyez-vous pas toujours avec les mêmes gens. Discutez d'autres sujets, discutez avec d'autres personnes.
Il faut apprendre, je pense, là-dedans, dans le réseautage, ce qu'on a à retenir, il faut apprendre à donner avant de vouloir recevoir des références. Puis ça, c'est quelqu'un d'affaires de Lévis qui m'avait donné ce conseil-là à la Chambre de commerce. Apprends à donner, apprends à partager tes contacts et ça va venir naturellement. Mais souvent, les gens venaient aux activités... Première fois qu'ils se déplacent, bon, j'ai pas signé de contrat un matin, j'en reviens plus. Non, il y a une notion que tu n'as pas compris du réseau.
Ben ouais, puis il y a une question de donner, comme tu dis, mais aussi d'entretenir ton réseau. Il faut l'arroser, la plante, pour qu'à un moment donné, elle fasse des fruits.
C'est pas compliqué. C'est 100 téléphones par jour sur mon cellulaire. Je vous dirais, ça paraît niaiseux, mais de ce temps-ci, là, le cadran sonne à 5 heures. Puis 5 heures et demie, je suis dans mes courriels le matin. Je suis un gars qui se lève très tôt. Mais j'ai toujours dit, il faut que je sois en avant de ma compétition. Comment je fais pour me démarquer? Mais entretenir notre monde, tu l'as très bien dit. Quelqu'un a besoin d'un contact, même si c'est pas dans l'immobilier, tu l'as. Ça t'amène pas une commande de bois. Partage. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai bâti mon réseau. Puis forcé de constater, ben les gens, avoir la banque de clients que j'ai, qui sont devenus, je vous le dis sans prétention, tous mes amis.
Oui, ça, c'est très hot. Mais, tu sais, je veux revenir quand même sur le référencement. Tu sais, je suis entrepreneur de la construction, je m'en vais acheter une corde de bois de construction.
Mettons qu'on dit un bundle de 2x4.
Oui. Mettons.
On va la rediriger, comme on va dire.
Non, mais il y a la femme là, de l'entrepreneur en construction qui nous écoute ce matin là, à la radio et qui me comprend dans ma corde de bois. Non, mais ce que je veux dire, le bundle, donc on la jette, mais là, on se fait référer en plus une autre personne. Je pense que c'est tellement une plus-value. Tu te sens pas comme un numéro, tu te sens important. Tu te dis, puis surtout si tu commences en immobilier, t'as pas nécessairement encore ton réseau, mais te dire, je m'en vais là et Sylvain va me référer du monde, moi, je trouve ça génial.
Ah oui, définitivement, puis... Tu sais, c'est une des forces aussi où que quand on a des besoins, puis tu sais, moi, je suis courtier immobilier, puis il y a des fois que je vais avoir des projets particuliers qui vont avoir des besoins particuliers, puis tu as une expertise aussi sur le développement de terrain, etc. Puis il y a des fois qu'on va passer des appels à Sylvain pour dire, hey, qu'est-ce que tu en penses sur ce projet-là? Y a-tu un potentiel que moi, je vois pas, qu'on pourrait regarder, etc. Puis tu sais, avec ces discussions-là, on va arriver à des pistes de solutions performantes pour nos clients. Même si je suis courtier immobilier, j'ai le droit d'avoir des professionnels externes qui ont une vision externe à moi, qui vont pouvoir m'aider à offrir un meilleur service à nos clients. Là. Puis, tu sais, ça, c'est une de tes forces de vouloir partager.
Le bagage d'Urban Conseil, il y en a beaucoup qui vont nous écouter, qui connaissaient Mélanie, elle avait parti à l'extérieur maintenant, mais développer du terrain, c'est un métier. Là. On ne peut pas s'improviser et dire on va aller voir un zonage, c'est plus qu'un zonage. Mais cette expertise-là, beaucoup de ma compétition, ben t'appelles, donne-moi une commande, sinon on passe à d'autres choses. Ben moi, j'ai décidé de miser sur d'autres choses. Mais je peux pas réaliser tout ça sans l'appui de mes patrons qui acceptent le fait que Deberge, il est impliqué partout. Le matin, j'étais à la radio. Ils acceptent ça parce qu'ils savent que le gars, il livre la marchandise puis qu'il est impliqué dans le business. Sans mes patrons, les frères Garon... Je ne suis pas ici ce matin. C'est une équipe. Hein? Je ne suis pas plus fort que mes collègues à l'interne qui viennent me supporter. Ça me permet de me libérer. Mais dans le contexte, on va se le dire, là, les matériaux de construction, s'il y en a qui pensent que dans leur domaine, c'est compétitif, n'est fait rien tour dans notre domaine. Là. Vous allez voir que...
Ah, puis tu sais, ça se négocie de la scène du 2x3. Ce n'est pas, pas de la pièce du 2x3. Là. Ça peut être... Il y en a un qui va le vendre à 1,27, mais l'autre le vend à 1,29. Puis, tu sais, les gens vont chipper pour 2 cents parce qu'ils en achètent tellement sur un volume annuel que, tu sais, il y a des économies astronomique à faire avec ça aussi. Fait que, tu sais, c'est très, très, très compétitif. Tu le dis très bien. Écoute, ça met la table déjà sur qu'est-ce qu'on va parler. Un des prochains sujets qu'on va parler, c'est justement les matériaux de construction. Il y a eu des hausses, il y a eu des baisses. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Le bois, il se passe comment avec ça? Le gypse qui a augmenté, il va-tu continuer d'augmenter? De quelle façon qu'on va se positionner avec ça? Ça va être important de rester avec nous après la pause. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast sur nos sites jean-françois-morin.ca ou sur Vigie Québec ou sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
L'Alternative.ca. CJMD 96.9. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain Théberge de Matériaux Beaumat. On parle des matériaux de construction, on parle du marché de la construction. C'est des sujets chauds actuellement. Il y a eu plusieurs changements dans les dernières années. Puis qui dit construction dit matériaux de construction, la COVID. C'est quoi les vrais impacts qui s'est passé avec la COVID?
Ben, première des choses, c'est la capacité de production. La demande a été accrue, on va se le dire. Les gens ont investi dans leur maison, ont investi sur leur terrain, ne pouvant pas voyager et sortir. L'autre chose, la pénurie de main-d'œuvre a fait en sorte que les fabricants n'ont pas su produire. Parce qu'il faut comprendre, un fabricant, il produit en hiver, il se bâtit un inventaire pour la haute saison. Parce qu'au Québec, on a l'hiver qui est normalement plus tranquille. Ils n'ont pas su. La demande était tellement forte en hiver qu'ils n'ont pas su se créer des stocks d'avance. Donc, il y a des retards qui ont été pris. Ça va prendre des mois, voire des années à récupérer certains items de la construction qui ont pris un retard énorme. Je vous dirais, il y a une tendance tranquillement. On sent que les fabricants sont en train de reprendre du poil de la bête. Les délais qui étaient, exemple, dans les chevrons, les gens donnaient des commandes au mois de février, les chevrons étaient livrés au mois d'octobre.
Même chose pour les fenêtres. On donnait des commandes, on avait 6 mois dans...
C'est ça. Notre poutrelle en I qu'on a stock chez nous, on est dépositaire d'un système de poutrelle en I, Trush Joyce. Ça venait des États-Unis, mais avoir une vanne de poutrelle, c'était 2 puis 3 mois. Alors que normalement, ça prend une semaine et demie, deux semaines. Mais tout ça, le mot d'ordre là-dedans, ça a toujours été le délai. Ça a été le mot à passer à nos clients. Mais oui, mais c'est tout ça qui a fait en sorte que la demande a cru, la rareté fait en sorte que le prix a monté. Mais tout a monté. Il faut décortiquer les matériaux de construction, bien important, là. Beaucoup ne font pas la différence. Il y a le bois, le plywood, les panneaux, qui est l'OSB. Ça, c'est, je vous dirais, c'est comme la bourse. Ça monte, ça descend au gré de l'offre et de la demande. Le gibroc, panneau isolant, bardeau d'asphalte, laine minérale, tout ce qui est manufacturé dans une usine, ça, ça l'a monté et ça n'a pas redescendu. Pour l'instant, ça ne redescend pas. Puis je ne m'attends pas. Avec mes collègues qui sont négociants, qui sont acheteurs, qui sont spécialisés, eux autres, pour l'instant, ne s'attendent pas à une baisse dans ces produits-là. Le bois, ben, c'est une chose. Ça s'est replacé, on va se le dire.
On a parlé, par exemple, d'un 2x4 avant pandémie qui se vendait aux environs de quoi?
Ben, on a vu 11-12 piastres.
Pendant la pandémie?
Oui.
Mais avant la pandémie, ça se vendait quoi? 2 piastres?
3, 4.
OK. Fait que ça a le triplé du prix. Puis
moi, je vais parler en pied et mesure de planche, là. On vendait du bois 4, 5, 600 piastres du mille avant pandémie. Du mille pieds de bois. Un pied de bois, c'est très technique, là, mais ça, c'est notre règle pour négocier. Ça a monté du 2000, 2200, 2300, 2400. Puis les gens prenaient des vidéos Facebook, disaient, les cours de bois sont pleines, etc. Les moulins, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs inventaires. Le bois était cher, les gens le consommaient. Tant qu'il y a du monde qui sont prêts à acheter du 2x4 à 12 piastres, ben, ils vont en vendre à 12
piastres. À 12 piastres, oui. Là, c'est la demande.
Puis, tu sais, il y a toute l'histoire aussi, puis tu nous as parlé que ça l'a amené cet événement-là au niveau de l'augmentation des prix, c'est les prévisions de la production puis la prévision de la hausse. Parce que, tu sais, le mode d'habitation a changé pendant la pandémie. Quand tout a été fermé, les gens qui voulaient acheter une maison plus grande, qui ne voulaient pas faire de travaux, qui ne voulaient pas faire quoi que ce soit, bien, ont changé leur mode d'habitation pour dire, ben écoute, à place de s'acheter une maison plus récente, on va rénover la nôtre. Mmh. Puis à place
d'acheter une propriété qui va avoir une cour extérieure qui fait notre affaire, ben on va s'installer une piscine, on va faire un patio de piscine, etc. Les gens ont réinvesti chez eux, qui a augmenté considérablement la production qui n'était pas prévue. Puis en plus de ça, les chantiers, les mises en chantier, on était
explosé.
On était en pleine économie, tout était fort, fait que ça a explosé à ce moment-là. Fait que c'est sûr que les fabricants pouvaient pas planifier cette production-là, qui fait en sorte qu'on écoule, on écoule, on écoule, on écoule les stocks. Puis là, ben arrive où ce que qu'est-ce qu'on produit, on le sort dans la journée, mais on a des tellement de bons de commandes qui rentrent, qui font en sorte qu'on est même pas en mesure de livrer la marchandise sur l'ensemble des bons de commandes qui arrivent. Puis c'est ce qui fait en sorte que là, on doit gérer les attentes au niveau des délais.
Puis... Je vais même rajouter quelque chose là-dessus. C'est à Québec, plusieurs, je vous dirais, fabricants, fournisseurs appelaient ça la dompe. C'est qu'à Québec, c'est un mode très compétitif. Les gens, les entrepreneurs, on va se le dire, ont été choyés pendant des années à payer un 2x4, 2,5, 3, 3,5. Je pense que le marché aurait dû s'adapter un petit peu plus à la hausse. C'est ce qui va arriver. Hein? En marketing, la base, c'est que si tu veux vendre un item, le gaz, ils vont le vendre à 1,5 piastres. Tu le montes à 2,25, puis tu le redescends tranquillement, puis là, le gars, 1,5 piastres, tout le monde dit qu'il n'est pas cher. Mm-hmm. Alors que c'est exactement ce qu'ils voulaient l'avoir. Le bois, c'est la même chose. Il est en train de se placer où les moulins veulent l'avoir. Puis c'est pas exagéré de ce temps-ci. C'est vraiment revenu à des niveaux... je vous dirais même avant la pandémie. Là.
Puis tu sais, il y a tout ça, le rattrapage qu'on doit faire aussi. Là. Même chose avec les taux d'intérêt, etc. Les gens paniquent. Ah, les taux d'intérêt, tu sais, on a un taux de qualification à 7,25. On paye notre taux d'intérêt à 5,25. C'est énorme. On ne devrait pas payer ça. Effectivement. Par contre, il faut juste se dire que depuis 10 ans, c'est anormal. C'est pas normal d'avoir des taux d'intérêt à 2 et 3. On devrait toujours être dans le 5, 6, 7, 8. C'est là qu'on devrait être pour une normalité puis de garder une économie saine. Fait que, tu sais, les matériaux, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on était en pleine économie. On était capable de sortir ça. Tout le monde était en surconsommation. Fait que, tu sais, comme il y avait beaucoup, beaucoup d'offres, on était en mesure de baisser le prix parce qu'on fixait nos frais fixes puis on était capable de payer nos frais fixes aussi en conséquence de ça.
Mais tu sais, les gens ont une mémoire de 6 mois. On le voit en politique, là. Les politiciens l'utilisent beaucoup dans leur stratégie, mais la mémoire, c'est 6 mois. Fait que tu compares au prix payé il y a 6 mois, puis tu te dis, c'est-tu haut, c'est-tu bas?
Oui, je dis souvent 6 pieds 30 secondes. c'est très rapide. Mais on s'habitue vite à une nouvelle situation. Mais les matériaux, présentement, ça se replace. Les matériaux manufacturés, ça va rester à des niveaux... ce que tout le monde pense, haut.
As-tu vu des changements au niveau de la consommation de certains matériaux, une nouvelle tendance?
J'ai vendu des revêtements de vinyle dernièrement. Ça devait faire 10 ans que je n'avais pas vendu du vinyle.
Mais ça, c'est fou quand même. Là. Parce que là, tu sais, le Canaxel avait pris la place du vinyle. T'sais, on disait quasiment que c'était un matériau haut de gamme par rapport au vinyle. Puis là, après ça, est arrivé le fibrociment, qui était un matériel de remplacement avec le vinyle, parce que le vinyle a eu ses années de gloire aussi. Puis là, tu dis que tu es en train de revendre.
Oui, mais on va s'entendre. Là. C'est pas 90 % de nos ventes.
Non.
Mais je pensais jamais revoir des demandes là-dessus. Mais les gens, à un moment donné, veulent sauver. Mais il y a une limite à ce que les gens peuvent sauver. Les gens mettaient du plywood à l'époque, parce qu'on a vu des feuilles de plywood à 100 $. Là. Fait que les gens essaient de trouver des alternatives pour baisser les coûts. Mais tu ne veux pas baisser les coûts au détriment de la qualité.
Oui.
Puis il y a des normes. On est régi par des normes de construction où on ne peut pas aller en... Mais non, les gens vont, je pense que les gens vont s'ajuster. J'ai pas de personne. Il y a un marché à Québec qui est en train de baisser énormément. C'est le Maisonneuve, premier acheteur.
OK.
Ça, on va se le dire, ça baisse. Ça, la demande. Mais l'acquisition, je ne suis pas un spécialiste du financement, mais on forçait de constater que acquérir une maison, c'est difficile.
T'sais, au-delà des normes, puis on va en parler tantôt de l'acquisition, puis la construction neuve, là, c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais bien qu'il y a des normes avec le Code national du bâtiment, bien qu'il y a des normes de construction, que on a les garanties qui s'appliquent, il y a des gens qui viennent superviser les chantiers pour s'assurer que la qualité de construction sont là. Mais est-ce que tu as vu des changements par certains entrepreneurs de modifier leur type de matériaux pour faire en sorte, par exemple, de la place de ne pas mettre du vinyle, de mettre c'est où ce que je cherche?
L'OSB.
Oui, l'OSB sur les toits, etc.
Les gens, tu fais bâtir un jumelé là, dans la région de Québec, tantôt, ça va être 400 000. Là. C'est là qu'on en est. On sort de la région de Québec sur la Rive-Nord, on est à 310, 315 de Beaupré à Pont-Rouge. Faut pas. Mais tu choisis un. Mettons, tu dirais, on va prendre un OSB chinois. qui me fait sauver 10 piastres la feuille. Mais sur le montant total, tu sais, quand tu vas hypothéquer, tu vas aller chercher... les gens ne sont pas prêts, je pense, à prendre le risque de...
payer moins.
Pour sauver 8 000 au total de la maison.
Une économie de bout de chandelle qu'il faut
pas... financer sur 25 ans.
Les entrepreneurs ne veulent pas le faire non plus parce que, tu sais, justement, ils viennent altérer un peu la qualité de leur construction en ayant des matériaux qui sont... moins performant, ben, va amener aussi des appels de service. Puis, tu sais, je pense que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, c'est de bien construire une fois puis pas avoir aucun appel de service.
Oui, mais ils ont une garantie à donner.
À honorer aussi.
Ils veulent pas retourner sur place. Puis, je pense que les gens, à un moment donné, sont prêts à payer un peu plus cher pour dire, ça peut-tu perdurer dans le temps? Les gens, au début, tout le monde panique, le gaz. J'ai jamais vu autant de roulottes sur le chemin cet été. Puis, le gaz était à 2 piastres. Fait que les gens, moi, je pense qu'on s'ajuste, on s'adapte, puis on, comme tu disais tantôt, on oublie vite.
Oui, puis tu sais, c'est un investissement à long terme, là, on ne se le cachera pas, l'immobilier. Là. Fait que, comme tu dis, faire des économies de bout de chandelle pour un investissement à long terme, c'est pas idéal. Mais j'imagine qu'il y a peut-être 2-3 entrepreneurs qui font fuck off, moi, je mets un matériau plus cheap. J'imagine qu'ils doivent en avoir.
C'est pas la majorité.
Généralement, c'est pas des entrepreneurs qui vont perdurer dans le temps aussi. Là, fait que ça fait en sorte que c'est des gens qui vont starter, ils vont faire des économies comme ça.
On a des clients chez nous qui ont 40 ans de date en affaires. C'est parce qu'ils n'ont pas... Non, ils ne chipent pas. Là. Mais tous ceux, comme tu dis, qui vont le faire, ben, ils vont être là tout le temps. Regardez, ils ont-tu pignon sur rue depuis un an ou ils ont pignon sur rue depuis 10 ans, 12 ans à la même place? Ça en dit beaucoup sur l'entrepreneur.
Sylvain, j'aimerais que tu sortes ta boule de cristal. Ouais. On se fait poser plusieurs questions.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Comme courtier immobilier, hey, le marché immobilier est comment, de quelle façon que ça va aller. Tu sais, tu te rappelles avec la pandémie, la SCHL avait annoncé une diminution de 18%, qui finalement, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Selon toi, là, tu sais, le marché des matériaux de la construction va s'en aller où dans la prochaine année avec des taux d'intérêt qui augmentent, avec l'inflation qui augmente, avec l'accessibilité à la propriété plus difficile? Tu sais, de...
Moi, ce que je vois, c'est je ne suis pas évaluateur. Mais je suis un gars qui est groundé partout. La diminution de la maison... ça va être difficile pour le premier acheteur d'embarquer dans... Puis tantôt, quand tes constructions, mettons, Sylvain Théberge, puis que tu fais de la maison de moyen, puis deuxième, puis troisième acheteur, il faut que le jeune couple ait embarqué dans le marché quelque part pour passer à une autre étape. Et c'est là que je trouve que ça va peut-être nuire. Mais le multilogement n'a jamais été aussi fort. Moi, 80% de mes ventes, c'est du multilogement et du commercial. Ça n'a jamais été aussi fort que c'est là. Ils se bâtissent des blocs. J'ai jamais vu autant de grues à Lévis. Présentement, qu'il y en a. C'est débile, là. Québec, c'est la même chose. On est rendu des blocs à Pont-Rouge, à Saint-Raymond, à Sainte-Catherine. Écoutez, les gens ont besoin d'avoir un toit sur la tête.
Oui.
On se le dit.
Oui, puis c'est une solution. On en parle, mais c'est ça. Tu sais, maintenant, avec le télétravail, on peut travailler, on peut s'éloigner des grands centres. Là. Tu peux travailler à Sainte-Catherine, la Jean-de-Quartier, puis te déplacer au bureau, à Québec une fois par semaine. Ouais. J'imagine c'est pour ça aussi qu'on s'éloigne là, des grands centres.
Moi, je me suis en allé à l'extérieur, vous êtes au courant. Je suis allé à Berthier. Parce que, oui, je fais de la route quand même, mais. La nouvelle réalité nous permet de dire aujourd'hui, je peux bouger de monter au bureau, je peux faire mes téléphones de chez nous. Faut que tu as l'obligation de performer. C'est pas un chèque en blanc que les employeurs nous donnent. Je pense que ça, c'est un point que plusieurs employeurs on redoute, mais c'est la réalité. Mais les gens vont devoir avoir un toit. Mais oui, premier acheteur, présentement, tu sais, quand tu dis que tu achètes un jumelé à Lévis, tu es à 350, 375 000 dans le temps de Lévis, jumelé flambant neuf, cottage. Je m'excuse, mais là, il va falloir qu'ils... Puis peuvent-tu aider dans cette mesure-là, tant que le prix respire. Comment qu'il donnerait des assouplissements?
Oui, c'est ça. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a très peu de terrain disponible. Fait que comme il y a très peu de terrain, ben il y a très peu d'offres. Fait que la demande augmente. Les gens sont prêts à payer le prix. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui arrive aussi. Puis, tu sais, le marché de la construction neuve, c'est un marché qui a toujours évolué à la hausse, à la baisse, selon le marché de la revente aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que son compétiteur est aussi la maison sur le marché de la revente qui va proposer sensiblement les mêmes options, mais souvent le terrassement va avoir été fini, le sol va avoir été fini, etc. Sauf que c'est des maisons qui ont eu de la vie à l'intérieur, qui ont eu des dommages. Tu sais, moi, j'ai une maison avec des gars, puis elle n'est pas neuve pantoute, ma maison, même si c'est une 2018. Mm-hmm. Ça l'amène un certain avantage. Puis le neuf, par exemple, en 2016-2018, de qu'est-ce que moi je voyais, c'était le neuf était l'alternative aux maisons de la revente parce que on était quasiment au prix égal. Puis pour le neuf, les gens sont prêts à payer 10 à 15 plus cher pour avoir exactement les matériaux qu'ils veulent, pour avoir exactement la configuration qu'ils veulent. Oui, ils sont prêts à faire le sacrifice du terrassement. Oui, ils sont prêts à faire les sacrifices de finaliser la propriété. Mais en 2016-2018, on était sensiblement là. En 2019, ça a continué, mais là, il y a eu quand même les délais qui ont augmenté. Fait que là, il y a eu une forte demande pour le marché de la revente. Puis le pourquoi de ça, c'est à cause qu'on était prêt à le livrer dans les délais où ce que les gens devaient se reloger. Puis tu sais, les gens qui avaient du temps allaient sur la maison neuve, mais il y avait cette réalité-là. Puis là, tu sais, en date d'aujourd'hui, moi, je trouve que le marché de la maison neuve devient un produit de luxe. Tu sais, on doit avoir l'intérêt à vouloir une maison neuve puis de vouloir payer peut-être plus que le 10 à 15 %. On est peut-être rendu du 20, 25 % plus cher que qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur...
Puis la maison usagée, bien, là, il parlait de baisse de valeur. Sauf que la maison, elle a pris 30-35 %. C'est juste un réajustement. Elle va avoir quand même pris 10 à 12 %, peut-être 15 % pareil. Fait qu'il faut pas... C'est juste qu'il y en a qui ont acheté des maisons surévaluées. Quand tu payes 100 000 de plus...
Oui. C'est le coût de l'émotion, des fois.
C'est ça. Mais la maison neuve va toujours rester. Si tu offres le choix aux gens, je t'offre un produit neuf ou un produit usagé, ils vont toujours aller, toujours aller dans le neuf. Mais les terrains sont dispendieux. À Ville-de-Québec, des terrains pour du jumelé. Je parlais à un promoteur hier au soir, puis c'est difficile. La Ville-de-Québec voit le Val-Belair comme de l'étalement urbain. Alors que donner la possibilité aux gens, aux jeunes familles. Moi, je dis tout le temps, donner un break aux jeunes familles. Bien, c'est pas pour rien qu'ils vont à Pont... Quelqu'un qui n'a pas été à Pont-Rouge, là, dans les 20 dernières années, il fait un saut, là.
Ah oui, écoute, c'est...
Sainte-Catherine, c'est
méchante
pareil.
Ville, là. C'est...
Ils ont du service, ils ont des... McDo, Tim Hortons à Pont-Rouge, là. À l'époque, on allait jouer au hockey, là, puis on se faisait un lunch, là, pour aller jouer au hockey, là. Tu sais?
Ah non, ça a changé complètement Mais l'image.
Les gens, comme tu dis, le télétravail les fait sortir... Mais les entrepreneurs sont résilients. Les entrepreneurs qu'on a, nos clients, on est meilleurs, on va se le dire, on est meilleurs clients. Bien, ils sont capables de s'ajuster. Ils voient le marché, ils écoutent un gars comme moi. Plusieurs m'appellent dans le jour, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est là qu'on va se démarquer, puis on va les aider à continuer. Parce que s'ils vendent pas de maison, on sort pas de cachette. Je vends pas de 2x4.
Ah oui, exact. Puis, tu sais, tout ça fait en sorte que tu deviens une belle référence. Puis, tu sais, toi, tu as l'opportunité de pouvoir parler à toute la communauté où tu as des inputs différents, autant sur des producteurs, autant sur des constructeurs, autant sur des promoteurs.
J'ai des banquiers, j'ai des avocats qui m'appellent. Écoute, au début, mes patrons, quand j'ai dit comment je vois mon modèle de développement, François, là, je le salue aujourd'hui parce qu'il a eu l'ouverture de me laisser aller. Là. Puis aujourd'hui, ben écoute, les résultats parlent. Je ne suis pas parfait, mais c'est d'aller voir des gens, d'avoir des avocats. J'allais prendre des rendez-vous. C'est ce qu'on va faire là avec un avocat. Mm-hmm. Tu as des clients, si tu en as qui sont insatisfaits de le fournisseur, je veux que tu me passes la balle. Mais ces gens-là me feed. C'est pas compliqué aujourd'hui, la business part toute de l'information que tu as. Plus tu es informé à la base, plus tu vas t'en sortir.
C'est-tu intéressant, les matériaux de construction? Écoute, on a effleuré, genre, que le premier sujet, on peut s'emballer, n'en jaser vraiment longtemps. On est obligé d'aller en pause. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h à CJMD 96.9, juste après la sauce, mais juste avant, zone parallèle. 96.9,
des opinions, the real talk, du gros fun.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio.
Vous êtes à l'écoute de La bulle immobilière où on parle d'immobilier aujourd'hui avec Sylvain Théberge. T'as parlé tantôt, Sylvain, de deux fois, en fait, de trucs que j'ai trouvé hyper intéressants. T'as dit « Mon employeur me laisse faire mon développement des affaires comme je veux. » J'adorais ça. Et t'as aussi dit « Il me permet de travailler dans les, t'sais, dans un horaire flexible. » Et ça, ça m'amène le fameux sujet de la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la construction, parce que je pense que les employeurs, bon, ils sont tous touchés par la pénurie de main-d'œuvre. On doit être à l'écoute de nos employés, ce que je pense que ton employeur est vraiment à ton écoute. Mais je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la fameuse pénurie de main-d'œuvre?
La pénurie de main-d'œuvre, elle est là, elle est présente. On va dire, comme Jeff, on disait tantôt, où sont passés ces gens-là? On ne partira pas dans des sujets politiques, mais force est de constater, chez nous, au restaurant du coin, on a des difficultés à recruter. On a des postes ouverts chez nous. Puis même avec mon Facebook, on va se dire, mon énorme Facebook, mes groupes immobiliers que j'anime, je ne réussis pas à canaliser des gens. Fait que les employeurs sont en train de se réinventer. Quand je dis à mes patrons, accepte, je t'encadrerai pareil. Ben j'accepte de travailler dans un cadre où ils ont établi, dire, on reste là-dedans, mais j'ai l'obligation de performer. Mais oui, la pénurie de main-d'œuvre, ces chantiers. Bien, je vais vous dire, le temps supplémentaire, ça n'existe quasiment plus. Les gens demandent pour du temps supplémentaire. Le mot travail-famille là, est implanté là, solidement.
Il y en a un autre, c'est loisir aussi.
Oui, c'est implanté. Mm-hmm. Puis je vous dirais, présentement, j'ai des employeurs que pour consolider leurs équipes, c'est pas la majorité. C'est du 4 jours semaine, ces chantiers-là. Et ça s'en vient. Je veux pas créer faire fâcher des gens. Je veux pas que les gens se fâchent après moi, mais... J'ai des clients présentement qui m'ont annoncé cette semaine qu'ils s'en vont vers le 4 jours semaine. Les autres, ils ont demandé 4 jours de 11 heures. Ça va finir probablement 4 jours de 10 heures, mais les gens vont être chez eux le vendredi. Il dit, si je fais pas ça, bien, mes gens vont être appelés à vouloir aller ailleurs. Donc, comme ça, je les consolide chez nous. On voit ça chez nous, chez Beaumart. Les gens qui sont plus en âge, qui sont en mode pré-retraite, vont travailler 4 jours semaine. Les gens sont en train de se revoir.
Puis, tu sais, ça se peut-tu que ça soit aussi un événement, mais c'est pas un événement, mais un phénomène générationnel aussi? Tu sais, est-ce que ça se peut... tu sais, je donne l'exemple toujours, là. Tu sais, mes parents, moi, quand ils étaient plus jeunes, ben c'était leur carrière, c'était vraiment important, ils travaillaient beaucoup. Puis, tu sais, la famille, elle existait, puis on passait 2 semaines ensemble aux vacances de la construction, puis, tu sais, bingo, là. Puis là, ben après ça, est arrivé notre génération à nous, où ce que tu sais, on essaie de concilier travail-famille. Par contre, le travail a encore une place importante parce que c'est un peu des valeurs qui ont été transmises par nos parents aussi. Puis là, on arrive dans une génération où ce que tu sais, il n'a pas fallu les shaker non plus à l'école. Tout le monde fallait qu'il passe. Tu sais, on avait quand même une drôle d'apprentissage aussi. Puis là, il faut vivre avec une certaine génération où ce que le travail devient secondaire et même tertiaire dans leur choix. Où ce que
la qualité de vie est en haut de liste. Puis je ne suis pas un spécialiste des ressources humaines, mais à blague, je dis aux gens, quand j'ai commencé là-dedans, je travaillais 6 jours par semaine à Quincaillerie, je faisais les 2 soirs, je livrais pour un restaurant de la région, j'étais pompier volontaire. Aujourd'hui, pour faire tous ces jobs-là, il faut que j'aille 4. Là. Mais est-ce que c'est mal? Mais la génération qui suit, faut s'adapter. Des heures, des semaines de 60 heures, ça n'existera plus, là.
Il faut dire aussi que si on prend le modèle de base, là, avant la femme ne travaillait pas souvent, elle s'occupait des enfants à la maison ou autre. Là, on n'est plus dans ce contexte-là non plus. Là, les femmes au foyer, il y en a encore, c'est certain, mais beaucoup moins. Là. Donc, c'est beau quand même de voir qu'un milieu de la construction qui est quand même un milieu souvent plus masculin, on va se le dire.
Puis plus macho.
Plus macho, mais tu sais, qui se disent, ben, je veux un certain équilibre. Moi, je suis pas fermé à ça. Je trouve ça quand même intéressant de voir ce penchant-là, de dire, ben, regarde, j'ai une famille, je veux m'en occuper. On se partage les tâches, on se partage, tu sais, les rôles et tout, la pression, tu sais, la pression d'avoir une bonne famille.
D'être en couple, d'être 2 personnes qui travaillent 4 jours semaine, on peut chevaucher aussi où ce que, tu sais, il y a un parent qui est avec les enfants 4 jours semaine aussi, parce qu'il y en a un, tu sais, par exemple, il y en a un qui peut prendre du lundi au jeudi, l'autre va prendre le mardi au vendredi, qui fait en sorte que les enfants peuvent être en...
Bien, il y a une époque, que ce soit chez nous ou ailleurs, des semi-retraités qui venaient, qui offraient 3 jours, ils n'étaient pas rappelés. Mais là, ils embauchent des gens pour combler un 40 heures. Ils vont donner 2 fois 3 jours à deux, ou 1 fois 2 à 1, puis 3 à l'autre pour les accommoder. Je pense qu'il faut accepter que la construction va aller dans le même sens que tous les employeurs. C'est-à-dire, mais là, je vous le dis, là, je suis complètement surpris la semaine passée. Encore 2 qui me disent, on s'en va en 4 jours semaine. Les employés là, sont heureux. Ce chantier, là, mm-hmm. Vous aurez dû voir la réaction de ces gars-là.
Ben, tu sais, puis en même temps, on va se le dire aussi, de se promener 5 fois dans le trafic avec les camions, aller sur les chantiers, etc., pour finalement faire 5 jours de 8 heures versus que d'être là juste 4 fois. Puis, tu sais, un coup que tu es rendu sur place, tes outils sont déjà là, que ton sac...
Est-ce que le gars... Il y a plusieurs employeurs à qui je parle, entrepreneurs, puis des gros, me disent, je doute de la pertinence de ça parce que passer 8 heures, ils sont moins performants, moins allumés. Je pense que chacun va trouver, mm-hmm. va appliquer ce modèle, le modèle qui lui convient. Mais on est en train de vivre un changement chez nous dans d'autres.
Puis peut-être qu'ils vont aussi prioriser certaines tâches en début de journée, puis finaliser avec la laine en fin de journée. Puis on va clencher tout ce qui demande un peu de cocologie, puis un peu plus de focus. Puis un coup qu'on est rendu en fin de journée, puis qu'on est rendu sur le respirateur artificiel, mais on fera des tâches qui demandent un peu moins de réflexion ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils vont aller vers
l'autre. C'est intéressant aussi le point, je trouve, Sylvain, que tu amènes, c'est aussi santé-sécurité. Tu sais, au travail, il y a quand même cet aspect-là hyper important. C'est vrai que si t'es plus vigilant, effectivement, après ton 9 heures de travail, mais je pense que les employeurs vont devoir être consciencieux de ça aussi. Là. C'est un bon point.
Puis, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai des gars que j'ai sous-contractés là, pour des travaux à la maison. Puis, c'était des gars qui avaient leur entreprise. Puis, la fin de semaine, ils prenaient des travaux. Puis c'est difficile d'avoir des gars que ça leur tente de faire des travaux la fin de semaine, même s'ils donnent des factures, même s'ils ont leur équipe, etc. Ils se concentrent de plus en plus sur leur chantier, ils se budgètent sur leur chantier, puis ils font pas nécessairement beaucoup d'extra en arrière de ça. Mais une question me pose, là, avec la CCQ, la PCHQ, avec toutes les normes de la construction, est-ce que ça serait possible dans un avenir rapproché qu'on voit des travailleurs étrangers?
Ben, chez nous, alors chez Matériaux Beaumont, il y a des travailleurs étrangers qui s'en viennent pour travailler dans la cour, on va s'en le dire, pour aider nos équipes dans la cour à bois à charger les camions. Je ne pensais jamais avoir ça de ma vie, mais on en est rendu là. Et c'est pas une tâche, c'est pas une tâche, une mince tâche là, de faire venir des gens là, pour. Je vous le dis, là, c'est des mois de préparation, d'accompagnement. Il y a des frais qui viennent avec ouais, mais oui, je vous le dis, on envoie. Ce ne sera peut-être pas des employés spécialisés, mais des manœuvres de chantier. Dans un avenir rapproché, je pense qu'on va voir tranquillement.
Fait que, tu sais, des manœuvres de chantier là, sur un chantier de construction qui va passer le balai, va faire le ménage, va apporter les matériaux, etc. Fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, nécessairement la construction puis les normes de la construction n'auront pas le choix de s'ajuster? Là, parce que,
ils vont les former. Comme chez nous, ils s'en viennent. Ce n'est pas des gens qui doivent maîtriser le français, on s'entend, de manière impeccable. Mm-hmm. Mais ils vont réussir à les accompagner pour qu'ils soient à leur meilleur sur le terrain, dehors, à aider à performer. Parce que là, on n'a pas le choix.
C'est quand même fou hein, qu'on parle de tous ces sujets-là puis vers où qu'on peut aller autant que, tu sais, on était dans un domaine standardisé, que ça fonctionnait justement comme ça depuis plusieurs années, puis que là, présentement, tout est en train de changer par rapport à ça. Puis, tu sais, arrive aussi un autre phénomène au niveau de la construction, le surendettement, les coûts des propriétés qui augmentent, l'augmentation des coûts de matériaux. Tu sais, selon toi, il y a beaucoup de multilogements actuellement qui se construisent. Ça peut être quoi les impacts du multilogement qu'on construit actuellement? Qui fait en sorte que, tu sais, on a des bébés boomers qui vont délaisser leur bungalow pour aller...
Moi, dans les prochaines années, moi, je pense 0-10 ans, il va y avoir des maisons. T'sais, on disait tout le temps les vieilles maisons, les pleins-pieds sur le plateau à Sainte-Foy. Mm-hmm. Mais il va y en avoir à Lévis aussi. Là. Des maisons, il va y en avoir à vendre. Je ne suis pas un évaluateur. On va me garder une petite gêne, voir qu'est-ce que ça va être l'impact sur le prix à long terme. Mais force est de constater que la règle de base, c'est quand il y a plus d'offres, ben, les prix baissent. Mais les bébés, c'est sûr que le multilogement encore pour 10 ans, d'après moi, va être encore excellent. Moi, je me répète, j'ai jamais vu autant de grues à Lévis que j'en vois là. La ville de Lévis est complètement en explosion.
Ben, on parlait des travailleurs étrangers, c'est sûr que eux qui s'en viennent au Canada vont avoir besoin de s'héberger. Fait que c'est sûr qu'il y a une quantité. Et là, travail, conciliation, travail, famille, il va peut-être avoir un baby boom. Là, on a vu un avec la COVID quand même, un baby boom. OK, ça va prendre des années avant que ces gens-là s'achètent des maisons, mais je pense que c'est un cycle, hein, la vie.
Oui, mais il y a un phénomène aussi, les gens vivent. Tu sais, il y a beaucoup de couples autour de moi qui vivent chacun le bord.
Oui.
Fait que ça vient doubler le nombre d'unités qui est requis. Mais est-ce que...
Mais c'est quand même fou, là. T'sais, on parle de manque de main-d'œuvre, mais on a une crise de logement. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de monde pour travailler, mais on n'a pas assez de place pour les loger. C'est quand même fou, là, comme...
Oui, exact. Mais on l'a dit, tu sais, quelqu'un qui veut... Il y a beaucoup de gens qui font du temps partiel maintenant. Tu sais, aussi, là, il y a ça. Temps partiel, conciliation travail-famille. Donc, ça l'enlève quand même des employés sur le marché du travail aussi.
Je pense qu'on va s'entendre aussi. Il y a beaucoup de brume encore devant tout le monde. Il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt sur « c'est ça qui va arriver
».
J'écoute des évaluateurs, des conférences à plein dans une semaine. Il n'y a personne qui a la vérité. Mais force est de constater qu'on s'en va vers une situation qui est complètement différente.
Puis là, il y a tout aussi l'aménagement des centres-villes où ce que tu sais, il y a des tours à bureaux. Il y a des espaces de pieds carrés qui ne seront peut-être plus nécessaires. On arrive dans des renouvellements de bail que ça a été... Tu sais, Louis, il y a 5 ans avant la pandémie, en 2018. En 2023, ils vont arriver sur leur renouvellement. Tu sais,
ils vont peut-être couper en deux la
superficie. Puis là, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on avait des tours à bureaux avec énormément de pieds carrés. Puis, tu sais, peut-être qu'ils vont se retrouver seulement avec la moitié de location, là.
Oui, mais ça, c'est moi, je dis tout le temps, le plus grand défi des villes dans les prochaines années, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces bâtisses-là. Parce que convertir une bâtisse à bureau en résidentiel, ça marche pas. Ben, pour l'instant, c'est très, très coûteux. Tu sais, il y a sur un étage de bureau, t'as une toilette ou deux. Si tu fais 20 logements sur le même étage, ça prend 20 toilettes, là. C'est souvent des planchers de béton de 8 pouces. Les villes ont un gros défi de planification pour les prochaines années. Ça, c'est une évidence.
Puis, justement, tu sais, tu parles de recycler ces immeubles-là. Est-ce que tu dis que ça a énormément de coûts, là, mais est-ce que tu penses qu'il peut avoir une faisabilité? Y a-tu quelqu'un qui pourrait se pencher là-dedans et dire ben écoute, nous, on se spécialise à faire du recyclage d'immeubles commerciaux?
À date, tous les professionnels que je parle, là, les grosses boîtes de construction qui ont des ingénieurs en place, me disent tous que pour l'instant, ils ne voient pas comment, ou ça va être extrêmement coûteux. Mm-hmm. Mais ils veulent densifier les villes. Là, donc, nécessairement, ils vont devoir le réfléchir. Mais est-ce que c'est faisable? Entre le vouloir et le pouvoir, c'est deux choses.
C'est quand même fou. C'est vraiment, vraiment fou. Puis une de tes spécialités, Sylvain, c'est le réseautage. Ça a été dans des événements de réseautage qu'on a pu se rencontrer. Tu disais justement tantôt d'apprendre à partager avant de recevoir. J'aimerais ça que tu me donnes un ou deux trucs dans des événements de réseautage parce que moi, je suis une personne qui se présente dans les événements de réseautage. Puis qui n'aiment pas tellement ça. Autant que, tu sais, je suis un people business, tu sais, mais tu sais, d'aller essayer de me trouver des amis. Moi, c'est toujours ça l'impression que j'ai que c'est comme si je me cherche des amis, puis je me cherche pas nécessairement d'amis. Mais de quelle façon tu pourrais m'aider ou aider nos auditeurs à pouvoir mieux.
Écoute, quand j'ai commencé, on allait à la Chambre de commerce de Lévis, j'arrivais de mon petit coin. C'était intimidant, là. Tu t'en vas dans un dîner de la Chambre de commerce. Souvent, je trouve qu'on était pas mal accompagnés, mais moi, quand j'étais embarqué, je me suis fait le rôle, j'ai pris le rôle de grand frère. À mes activités du réseau immobilier, mettons, j'arrivais tout le temps le premier, c'est sûr que j'étais à l'accueil, mais je m'assurais que tout le monde qui rentre, les nouveaux visages, t'es nouveau, t'es jamais venu, t'es un petit peu, de moi, viens me voir, on va prendre 2 minutes pour te connaître, pour savoir où je vais te diriger.
Mm-hmm.
Je pense que de donner, c'est pas juste de dire, moi, il faut que je ramasse de mon côté. Le réseautage, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de contacts, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit, il faut donner. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas dire d'autre chose que ça.
J'aimerais faire du pouce là-dessus. J'avais été voir, parce que moi aussi, le réseautage, je viens de la Beauce quand j'ai commencé mon entreprise à Québec. Là, au début, je connaissais juste des avocats. Moi, j'ai fait mes études en droit, je connais des avocats, mais là, je me lance, je veux des clients en affaires. Donc, mes premières activités de réseautage, je trouvais pas ça évident. Et j'avais été voir une conférence de Sylvain Boudreau qui avait dit « Sois sympathique et professionnel. » Puis dis, tu sais, le côté professionnel, t'es supposé l'avoir, là, t'es supposé être compétent, si on va le mettre de côté. Mmh. Fait que sois juste sympathique. Fait que, tu sais, Jeff travaille peut-être ce côté-là, le côté sympathique. On devrait arriver à quelque chose. Non, non, sans blague. Mon point, c'est de dire, il faut être soi-même, je pense. Parce que moi, dans mes premières activités de réseautage, j'avais peur, honnêtement, justement, de compter des jokes, de laisser aller ma personnalité. Je pensais qu'avocat, il fallait que je sois quand même... strict, droit. Là, et quand je me suis rendu compte, non, regarde, je vais être sympathique. Là. Puis ça a marché. Là, je veux dire, le développement va super bien dans mon entreprise. Fait que je pense que c'est ça aussi, écouter sa couleur, écouter sa personnalité, puis se dire, ben regarde, c'est comme ça que je suis dans un événement, je vais être moi-même, puis la personne qui va me connaître à une activité de réseautage, qui va me revoir au prochain, je vais toujours être la même personne.
Puis tu sais, en fait, moi, j'ai une qualité dans la vie, je sèche les gens, ça prend 3 secondes d'écart. Je suis capable de voir, y est-tu ici pour les bonnes raisons ou y est-tu ici pour venir tirer de son bord?
Ouais.
C'est plate, mais même dans mes activités, quand je voyais qu'il voulait juste tirer de son bord, je me détachais, je disais, t'es pas ici pour les bonnes raisons. On va se concentrer aux gens qui ont le goût. Puis, tu sais, souvent, je parlais même pas de business. Je parlais de mes passions. Tu vas dire, on connaît, là, je vais à la chasse, là, je suis un chasseur. Tout ce qu'il y a du poil, là, j'y vais. C'est pas compliqué, là. Mais non, pas.
On va récupérer
ce que je viens de dire là, mais. Je vais à la chasse. Écoute, mais je parle de mes passions avant de parler de business. Puis souvent, c'est là qu'on développe les plus belles choses. Mes clients, là, 100% de mes clients, on parle de toutes sortes de choses. À part, hey, by the way, à la fin, il faut que je te donne ma commande pour la semaine prochaine.
Ben oui.
Ça fait une heure qu'on jase de toutes sortes de choses. C'est comme ça que tu développes, qui t'éloigne de ta compétition.
Mais s'intéresser aux gens, hein. Ouais. C'est tellement primordial, en fait.
Puis ça se sent.
Oui, ça se sent. Poser des bonnes questions. Et je recommande aux auditeurs qui nous écoutent, qui aiment le sujet, L'art de se faire des amis, de L'art de se faire des amis, d'influencer les autres. C'est excellent, ça, parce que c'est justement ça, parler des passions des personnes, les écouter, être là pour les bonnes raisons. Je pense que c'est comme ça qu'on crée des bons contacts d'affaires, des amis, que ça va bien avec nos employés, conjoints et voisins.
Merci Sylvie, merci Sylvain d'avoir été présent avec nous. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité pour l'émission La Bulle immobilière. Si vous désirez plus d'informations sur Materrou Beaumont, de quelle façon qu'on peut te rejoindre?
Écoute, beaucoup par Messenger, par Facebook. Je suis très, très, très actif. Moins dans... Je partage... Les gens qui sont sur ma page, voient, je partage beaucoup de jobs texto ou texto, courriel... quelqu'un qui veut me parler, là, il est capable.
C'est assez simple. Materrou Beaumont, Saint-Étienne, présentez-vous sur place, demandez Sylvain Théberge.
Je suis sur la route, je suis pas tout le temps là, on va se le dire. Là. J'essaie de le plus souvent possible sur la route, mais on peut mettre les coordonnées quelque part, mais c'est impossible de ne pas pouvoir me rejoindre. Puis on va s'asseoir avec vous autres, on va regarder vos besoins. On parlera de matériaux à la fin, mais on va faire ça comme tout le monde, client de 25 000 ou un client de 2 millions, il est traité de la même maudite affaire.
Vraiment, merci Sylvain. Merci, ça a été un réel plaisir. Sachez que la façon la plus fun de se faire de l'argent, c'est avec le bingo de CJMD, déjà 150 000 piastres qui a été remis en bingo l'année passée. C'est plus de 3 000 à chaque semaine qui est remis. Manquez pas ça, il y a plein de places vous pouvez acheter vos cartes de bingo dans le secteur. Vous voulez plus d'informations, allez sur le site de CJMD. Si jamais il y a de quoi que ce soit, vous avez des besoins en immobilier, contactez-moi, Jean-François Morin. Ou si vous avez des besoins en droit des affaires,
Sylvie Bougie, Bougie Service Juridique.
Merci tout le monde, passez une belle journée. Talk, rock and hip-hop.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.